Midi 19 à l'émission L'épreuve des faits. On entre dans le vif de nos sujets du jour. J'accueille en studio mon collègue Philippe Pesant-Bellemare qui est en compagnie du maire des îles, Antonin Valiquette. Il y avait séance du conseil municipal, bien sûr, hier. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Et hier, d'ailleurs, il y avait à peu près 150 personnes qui ont assisté au plus fort du conseil, parmi lesquelles il y a, je dirais, environ une quinzaine de citoyens qui ont pu poser des questions aux deux séances, aux deux périodes de questions. Bon, monsieur le maire, si on rentre dans le vif du sujet, durant la séance de la communauté maritime, vous avez résolu hier avec les autres membres du conseil municipal d'adopter les priorités d'intervention annuelle de la communauté maritime dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, le FRR, afin notamment de les communiquer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bon, parmi les priorités d'intervention, vous avez notamment identifié la démocratisation et la vulgarisation du projet de parc régional qui, on le sait, soulève beaucoup de passions et de questions ces temps-ci dans la communauté, en rappelant par le fait même votre intention de tenir un nouveau processus de consultation auprès des résidents de l'archipel. Le conseiller de Fatima, Roger Chevalier, a d'ailleurs indiqué que celle-ci aura lieu à l'automne. À ce stade-ci, M. Valiquette, est-ce qu'on est en mesure de dire quelle forme pourrait prendre cette consultation publique-là?
Non, puis c'est peut-être rapide de dire que ça va nécessairement être à l'automne. Ben, en tout cas, on travaille là-dessus, là, mais effectivement, avec les priorités du FRR, dans le fond, c'est quoi le FRR? C'est une enveloppe qui se divise en quatre volets. L'argent est au MAMH, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Et nous, on gère l'enveloppe, mais le ministère, le MAMH, a un droit de regard. Donc, il faut qu'on dise au MAMH, c'est quoi nos priorités de développement de territoire? Et sur quoi on se base pour donner ces priorités-là au ministère pour dire, ben écoutez, on va prendre de l'argent que vous nous donnez à gérer pour telle ou telle action, initiative, projet de développement, soutien à un organisme ou une entreprise. Parce que, vous voyez, ça fait partie des priorités qu'on vous avait déjà exprimé auparavant, qui sont en ligne avec les orientations gouvernementales, par exemple les priorités en occupation et vitalité du territoire, ce qu'on appelle les OVT. Et nous, on sert beaucoup de la feuille de route du Horizon 2025, du projet Territoire Horizon 2025, où l'ensemble des organisations intersectorielles des Îles-de-la-Madeleine se concertent pour établir un plan d'action sur, c'était un projet Horizon 2025, ça a commencé en 2013. Donc, on a des actions là-dedans. On en avait 74 au début, il y en a 63 maintenant. Donc, ça, c'est ça qui dicte un peu les priorités qu'on donne au ministère pour dire voici comment on va dépenser l'argent que vous nous confiez.
Donc, grosso modo, on va dédier des sommes de ce fonds-là pour faire ce processus de consultation-là.
Bien, en fait, ce qui était prévu, c'est que les consultations sur le parc régional, il y en a eu. C'est un projet qui part de 2009. Il y a eu énormément d'articles et de publications de l'info municipale qui a été... il y a des consultations auprès des associations d'usagers des terres publiques auxquelles s'adresse particulièrement le parc régional. Et là, vous avez raison, dans les derniers mois, lorsqu'on a annoncé la passe archipel et qu'on a dit que c'était pour financer le parc régional, bien, il y a beaucoup de questions et malheureusement beaucoup de désinformation aussi qui a circulé sur le parc régional. C'est pas vrai que ça va interdire des usages comme la chasse et la pêche en terre publique. C'est pas vrai non plus que ça va rajouter automatiquement de la réglementation sur les terres publiques non plus. C'est pas vrai qu'on va charger ou contrôler des usages comme de la cueillette, de la marche, de la baignade, etc. Mais l'idée du parc régional, c'est vraiment de concilier les usages entre les différents usagers, les nombreux usages qui se font sur le territoire. On en a encore des exemples, pas plus tard que cet été, ça a déjà commencé. On a des usagers qui viennent nous voir un après l'autre, qui vont voir un peu toutes sortes de départements différents au niveau de la communauté maritime pour essayer de régler un problème de conflit d'usage et de partage de territoire. C'est à ça que ça sert le parc régional. Là, on sent qu'il y a des questions, puis on se sent pas à l'aise au conseil de dire, on peut pas être sourd non plus aux commentaires qu'on reçoit de quelques centaines de personnes depuis les deux, trois derniers mois sur le projet de parc régional. Donc, on dit, au lieu d'aller de l'avant avec l'application, la création d'un parc régional, on retourne à la population, on a un besoin clair exprimé par une partie de la population qui est non négligeable, on l'entend, on l'écoute, on agit, on le met au niveau des priorités du FRR, puis au lieu de, comme ça, on va être capable de dire, si on a des frais, par exemple, engendrés par le processus de consultation, on pourra, à la limite, se faire financer à même le fonds de région ruralité.
Puis vous avez d'ailleurs mentionné, vous avez répété hier que votre intention en ce moment, à ce stade-ci, n'était pas d'abroger les règlements qui mettaient en place la fameuse passe archipel, même avec les modifications qui ont été apportées. Est-ce qu'on est en mesure à ce stade-ci de dire combien d'argent la passe archipel a permis de récolter ou au moins combien de personnes ont offert une contribution volontaire?
Ben, écoutez, ça, l'orientation du conseil, elle est claire. Là. Je vous réponds ce que j'ai répondu à tout le monde. Là. Dans le fond, on va faire un bilan. À la fin de la période, du 14 octobre, on va être en mesure de dire tout ça. On va être très transparent. Combien il y a de personnes qui ont payé 30$, combien il y a de personnes qui ont payé 100$, à quelle période ça s'en est fait il y a eu le plus de paiements. On va être tout à fait transparent là-dessus et combien on a récolté, évidemment. Sauf que là, tout de suite, faire des bilans, je vous donne un chiffre aujourd'hui, ce sera plus le même demain. Puis c'est plus ou moins pertinent parce que là, on est, voyez-vous, on est le 10 juillet, la saison n'est pas finie, là. Elle vient de commencer là, pratiquement. Donc, je vous donne un chiffre aujourd'hui, la semaine prochaine, il n'est plus bon, puis on ne commencera pas à faire des bilans ou des mises à jour de combien de personnes ont contribué au fonds de gestion durable du territoire. On va faire un bilan, un chiffre clair à la fin de la saison pour que ce soit. Puis après ça, au budget, on va être très transparent aussi sur qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là.
Est-ce qu'on est quand même en mesure de dire si ça répond un peu aux attentes qui étaient établies par la municipalité?
Ah ben, pas aux attentes initiales dans un format...
Disons aux attentes secondaires, à partir du moment où on a décidé que c'était une contribution volontaire, est-ce que ça répond un peu à ce qu'on souhaitait avoir avec ça?
Ben écoutez, lorsqu'on a viré ça en contribution volontaire, on n'était pas en mesure d'établir des attentes plus ou moins. Là, rendu là, on est... Bon, écoutez, on le met en place parce que pour nous, c'est important de maintenir un fonds de gestion durable du territoire. La question de la redevance, c'est comment on alimente ce fonds-là. Vous savez, ça vient beaucoup aussi du fait de la situation financière et budgétaire qu'on a à la municipalité et à la communauté maritime des îles. Une situation serrée comme à l'instar de plusieurs autres villes du Québec au cours des dernières années. On voit ça dans à peu près tous les médias. Puis c'est pas étranger non plus au nombre de démissions qu'on voit dans le monde municipal, presque 1000 démissions depuis 2021. Ben écoutez, les villes font face à des enjeux financiers extrêmement serrés et ça met une pression sur les élus. Ils ont des décisions difficiles à prendre dans ce contexte-là, puis ça fait une pression, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre cette pression-là. On va pas se présenter en politique municipale pour se faire insulter sur les décisions qu'on n'a pas le choix de prendre parce que, veux pas, on est serré financièrement. Une façon de se donner de la marge de manœuvre, c'est de diversifier les revenus. C'est ça l'idée d'une redevance touristique, parce que comment on fait à la municipalité des îles pour diversifier des revenus légalement, parce que une municipalité ne peut pas générer des nouveaux revenus n'importe comment. On est encadré très sévèrement. Il y a 42 lois qui sont différentes qui régissent le monde municipal, les municipalités et les villes. Ça en fait là, quand même de la loi. Là. On ne peut pas organiser des soupers spaghettis. Là. Donc, un moyen réglementaire de le faire, c'est avec une redevance. Et c'est de diversifier les revenus en allant chercher de l'argent ailleurs que chez nos contribuables qui payent déjà même le compte de taxes. Donc, c'était ça l'idée du fonds de gestion durable du territoire, c'est de générer un fonds qui est alimenté par autre chose que les taxes de nos citoyens.
Il y a quand même, j'aimerais quand même revenir peut-être sur certaines questions qui ont été abordées durant les périodes de questions hier, notamment sur les modes de paiement, bon, qui peut-être semblaient difficiles d'accès pour certaines personnes ou du moins semblaient pas plaire à tout le monde en termes de paiement par le téléphone et tout ça. Mmh. Avez-vous l'impression que ces modes de paiement-là sont assez clairs ou pratiques pour les personnes qui souhaitent payer, mais aussi que les visiteurs sont bien mis au courant de la possibilité de faire une contribution volontaire?
On peut payer par chèque au comptoir aussi. Ils peuvent payer. On est capable de payer à même la réception de la municipalité. On a même une tablette dans le fond. C'est l'iPad là, qu'on a à la réception où les gens peuvent, on peut accompagner les gens préposés à la réception, on peut accompagner les gens pour qui sont intéressés, qui veulent faire un paiement à même la réception. C'est sûr que on en prend note là, effectivement, mais vous savez, pour ce qui est des attentes, c'est que là, en même temps aussi, nous autres, notre plan marketing ou de promotion ou de diffusion de l'information était basé sur un on avait engagé une firme là, pour nous accompagner là-dedans puis produire des outils de communication où on parlait de redevances obligatoires. Donc là, en virant ça en volontaire, on n'avait pas le temps ni les moyens non plus de recommencer à zéro pour une campagne de promotion plus détaillée puis sur le comment payer la redevance. Par contre, c'est sur la page d'accueil. Dès que vous allez en ligne, c'est vraiment pas plus compliqué de s'acheter un billet pour aller voir un spectacle au Vieux-Treuil non plus. Là, je veux dire, c'est quand même... on parle pas de quelque chose de très compliqué non plus là, de donner une redevance de 30$. Je pense que je suis le premier à avoir utilisé aussitôt que la plateforme de paiement en ligne a été mise en ligne. La première chose que j'ai faite, c'est de l'essayer, puis ça marchait très bien. Là, par téléphone ou par ordinateur, il n'y a pas de problème.
Si on change un peu de sphère, de sujet, si on veut, mm-hmm. Les conseillers vous-même avaient octroyé un contrat de gré à gré à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, mm-hmm. afin d'adhérer à un parcours de décarbonation qui serait piloté justement par l'UMQ. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir plus précisément avec une démarche comme ça?
Ben là, on tombe dans les objectifs de la transition, de la stratégie énergétique 2017-2025 de la communauté maritime. D'ailleurs, on a revu une autre résolution hier, c'était de mettre à jour le plan d'action de cette stratégie-là. Et un des grands objectifs de la stratégie, dans le fond, c'est pour la communauté maritime et la municipalité de donner l'exemple, finalement, aux Îles-de-la-Madeleine, puis de réduire le plus possible notre empreinte carbone puis notre consommation énergétique qui est fournie par une centrale thermique. Donc, plus on réduit, plus on est efficace au niveau énergétique, premièrement, nous, ça nous fait sauver des coûts fixe en électricité, en chauffage, et etc. Et en plus de ça, ben, on réduit notre empreinte carbone. Donc ça, c'est un projet qui est important. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a mis en place un parcours de décarbonation des bâtiments municipaux, a lancé un appel d'intérêt à toutes les municipalités. Ils en ont retenu 10, dont celle des Îles-de-la-Madeleine, donc communauté maritime et la municipalité des Îles. Donc l'idée, c'est, dans le fond, ça va être de faire un achat groupé d'experts qui vont faire le bilan énergétique ou l'inventaire finalement de nos bâtiments, puis nous faire des recommandations, des suggestions sur les mesures à mettre en place pour réduire notre consommation énergétique. Et plus on met des actions en œuvre du plan d'action qu'ils vont nous proposer, plus on a de la subvention. Donc, ça pourrait nous coûter pratiquement rien, là, finalement, en bout de ligne, avec ces investissements-là. Puis, en même temps, ben ça nous fait faire certaines... Ça peut nous permettre d'avoir accès à des subventions pour faire de la rénovation sur notre gestion des actifs. Vous savez, la gestion des actifs, c'est un poste de dépense extrêmement important du côté de la municipalité. On a déjà des exemples. On a beaucoup de bâtiments. On a au-dessus de 90 bâtiments qui appartiennent soit à la municipalité ou à la communauté maritime, là. Donc, c'est important de maintenir la gestion de ces actifs-là, d'investir pour pas... Ces bâtiments-là se détériorent. Donc, c'est une façon de le faire avec des programmes comme celui de l'UMQ, puis après ça, d'autres programmes pour la décarbonation de ces bâtiments-là.
Puis, est-ce qu'on est en mesure de dire, là, avant justement la réception de ces subventions-là qu'on espère avoir, c'est quoi la valeur de ces ententes contractuelles-là?
On est dans... Mon Dieu, je les étudie. Je pourrais peut-être aller les chercher vite fait, là. C'est sûr qu'on est en direct, là. Approximatif, on est dans le 200 quelques mille dollars pour 8 bâtiments. Mais après ça, c'est la facture avant subvention. On peut aller chercher entre 50, 80, 100%, voire même de subvention sur ces études-là.
Puis durant la période de questions, il y a un citoyen qui vous a interrogé par rapport à cette démarche-là en disant qu'il doutait que la recharge de véhicules électriques avec l'électricité de la centrale au diesel soit réellement plus bénéfique pour l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, que ce monsieur-là n'est pas ingénieur électrique, clairement, parce qu'il y a effectivement un gain. Ça a déjà été dit, démontré. Je me souviens que quand j'étais journaliste, j'avais même déjà posé cette question-là à un responsable d'Hydro-Québec, notamment à l'inauguration des bornes électriques. Puis, vous savez, faire quelque chose de bien simple, les moteurs de la centrale Hydro-Québec roulent toujours de façon optimale. Okay? Un véhicule à essence rarement va rouler de façon optimale nécessairement. Donc, tu gagnes tout de suite en efficacité puis en production, en réduction de gaz à effet de serre. Un véhicule électrique alimenté par une borne électrique fournie par la centrale va demander moins de consommation carbone, de consommation de mazout, finalement, que ce que ça prend pour un véhicule électrique. Là. Ça, c'est clair, c'est démontré, c'est chiffrable, puis on parle pratiquement du simple au double.
Peut-être une dernière question pour terminer. Dans le dossier de la mise à niveau des installations de traitement des matières résiduelles au CGMR, la communauté maritime a évalué qu'un emprunt de 1,5 million de dollars va être nécessaire pour faire l'acquisition de certains équipements, mm-hmm. mais aussi pour mener des études préliminaires et faire des devis pour la reconstruction des plateformes de compostage. On parle d'un emprunt remboursable en 20 ans et pour lequel une nouvelle taxe va être mise en place. Mm-hmm. À titre indicatif, qu'est-ce que ça va représenter comme charge fiscale pour les citoyens des îles?
Ah, ben, un projet de 1,5 million comme ça, un règlement d'emprunt de 1,5 million, c'est sur un projet de 8 millions qui est financé à 60% par un programme. Puis c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix de faire, qui sont dans le PTI. C'est dur de dire à ce stade-ci exactement l'impact sur le compte de taxes. C'est une information qu'on pourra vous donner. Il faut juste le calculer en tant que tel. Mais vous savez, 1,5 million sur 20 ans, On est à 150 000, 250 000 à peu près par année sur un compte de taxes. Ben, écoutez, puis après ça, il faut que tu calcules qu'il y a des autres prêts qui se terminent au fur et à mesure. Donc, si on n'en fait pas d'autres pour les remplacer, vous savez, il y a toute une gymnastique là, à regarder, une balance d'équilibre qu'on fait aussi au niveau des services administratifs et trésorerie. Lorsqu'on fait un prêt, mais qu'il y en a d'autres qui finissent pendant qu'on paye ce prêt-là, ben écoutez, l'impact sur le compte de taxes n'est pas nécessairement le même, mais c'est sûr que nous, dans notre exercice budgétaire, on prend ça en considération. C'est des investissements qui sont prévus depuis longtemps et on va s'assurer que le service de dette demeure au niveau qu'on est présentement, là, le maintenir autour de 10% et de ne pas faire passer le niveau de dette finalement au-delà de ce qui représente déjà sur les actifs de la municipalité. Ce sont les indicateurs principaux lorsqu'on parle du contrôle de la dette qu'on regarde au niveau du conseil.
Merci beaucoup, M. Valiquette.
Merci, Philippe.